Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de InVino Radio, à mes côtés Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour Alain.
Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David aussi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour des émissions animées par Émilien Boutillard, qui est le chef de cave du champagne Piper Heidsieck, également élu meilleur chef de cave en 2021 par l'International Wine Challenge. Bonjour Émilien.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Alors, on se retrouve pour parler, pour répondre en tout cas aux auditeurs avec une première question qui concerne les vendanges 2022. Et puis un point de détail, qui est, c'est une bonne question, à quel moment on sait que les raisins sont mûrs ?
Ah bah c'est une bonne question. Bah alors on s'appuie sur différents paramètres, des paramètres analytiques tels que la quantité de sucre dans les raisins, le pH des raisins, l'acidité des raisins. Donc ça, c'est des paramètres qu'on analyse en laboratoire, mais aussi on s'appuie sur la dégustation. En fait, typiquement, moi, avant les vendanges, je vais dans les parcelles avec mes vignerons et puis on goûte directement dans la parcelle les raisins. Et de par la dégustation de la pulpe, de la pellicule des raisins et aussi des pépins, on va avoir une idée sur la sur l'aromatique des raisins, sur la maturité intrinsèque phénolique des raisins. Et ça va nous aiguiller sur la date de vendange qu'on va décider. Donc, on s'appuie à la fois sur des données analytiques et en même temps sur une dégustation de baies de raisins.
Et donc ça, c'était... Est-ce que les anciens font la même chose ? Vous êtes jeune, vous, Émilien. Il faisait comment, les anciens ?
Bah, un peu pareil. Hein. C'est à la fois empirique avec cette fameuse dégustation, ouais. Et puis les analyses, c'est là je parle de laboratoire, mais c'est des analyses qu'on peut faire à la parcelle presque avec des densimètres, des outils en verre tout simplement, qu'on vient plonger dans du jus de raisin qu'on a pressé. Donc c'est des analyses très simples, hein, très basiques, très simples, et qui se font déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est grâce à cette combinaison d'analyses scientifiques et de dégustation qu'on décide des dates de vendange. Dans chacun des terroirs.
Hélène Piau, un peu de technologie, un peu de tradition, d'empirisme aussi. C'est la technique qui aide le doigt mouillé, si je puis dire.
Bah, c'est toujours un peu de l'alchimie. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de magique dans la réalisation d'une cuvée. C'est que il y a du savoir, même de la science. Œnologue, c'est un métier très scientifique avec beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup de chimie. Et puis derrière, il y a la poésie, l'inspiration, le sens du vent.
Il y a plein de choses qui dictent des choix, en tout cas. Deuxième question, mon cher Émilien, qui provient d'Alexandre, qui nous demande combien de temps durent en moyenne les vendanges. Alors restons sur la champagne. Ça s'étale sur entre combien en moyenne, hein, c'est même s'il y a des changements.
Alors là, on a encore du sujet, hein, puisque ça s'est terminé la semaine dernière pour les dernières grappes cueillies, et ça avait commencé le 20 août. Donc vous voyez que ça s'étale quasiment sur un mois. Entre les secteurs les plus précoces. Donc cette année, par exemple, c'était Montgueux, donc près de Troyes, donc dans le sud de la Champagne, on a commencé vraiment tôt cette année. Hein. Et puis les secteurs les plus tardifs, avec des coteaux qui sont plutôt exposés vers l'est ou voire vers le nord, notamment le secteur de la vallée de la Marne qui était plus tardif cette année. Et là, on a cueilli seulement à partir du 10 septembre environ. Donc en Champagne, ça s'étale sur entre 3 et 4 semaines selon les années. Et ça, c'est vrai un petit peu partout. En France également, selon les cépages, si on fait du vin blanc ou du vin rouge, ça va s'étaler un petit peu plus. Mais en gros, on part sur cette logique-là de 4 semaines un peu partout en France.
Mathilde se demande comment se sont passées en Champagne les vendanges cette année. Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que c'est, dixit les vignerons, comme chaque année, la vendange du siècle ou pas ? Alors dites-nous, Émilien, vous qui êtes un garçon normal.
C'est les vignerons ou c'est les journalistes qui demandent, en tout cas à chaque fois, si c'est la vendange du siècle.
Trouvez-moi un vigneron qui va dire vraiment ma récolte est pourrie. Faudra le sortir du chapeau, ce garçon, quand même. Hein.
Non, mais je ne vais pas être très original parce que tout le monde a le sourire en Champagne cette année. On a des raisins qui ont atteint une belle maturité, donc avec des aromatiques très intéressantes, un taux de sucre aussi très intéressant. Et puis, en même temps, de la quantité. Donc, tout est au rendez-vous. On a la quantité, la qualité. L'état des raisins était magnifique. Il n'y avait pas du tout de pourri, par exemple. Ça peut arriver dans des années un peu humides en fin de saison d'avoir un peu de pourri. Là,
qu'est-ce que vous en faites des pourris, d'ailleurs ? Vous en faites du sauterne ou vous le mettez à la poubelle ?
Ah non, on ne l'utilise pas. Non, on ne fait pas de sauterne. En Champagne, on fait des vins effervescents et on a besoin d'avoir des raisins qui ne sont pas du tout pourris. Donc, ils sont écartés au moment de la cueillette, en fait. Vous savez, en Champagne, la cueillette est manuelle à 100%. Donc, au moment de la cueillette, les vendangeurs, les vignerons écartent les raisins qui sont soit un peu vert, donc pas tout à fait mûr, ou alors pourri. Et cette année, bah, il n'y en avait pas. Donc tout va bien, tous les raisins ont pu rentrer au pressoir. Et comme je l'ai dit, c'est une année dont on se souviendra, parce que 2021 était beaucoup plus compliqué avec une petite récolte. Et là, 2022, donne le sourire à tout le monde avec beaucoup de raisins et des raisins d'une très grande qualité. Donc on peut espérer de très jolis vins en 2022.
Donc quantité et qualité au rendez-vous cette année en Champagne. Autre question de Prisca qui se demande quelles sont les régions qui débutent en premier, en moyenne, hein, les vendanges, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la Champagne, le Bordelais, le Beaujolais, le Roussillon. En général, ça commence par quelle région? On a logiquement envie de dire plus c'est au sud, plus ça commence, plus c'est précoce, non?
Alors, bah oui, ça marche plutôt bien dans le secteur des sables en Camargue, notamment, c'est souvent les premiers à commencer. Donc là, c'est de plus en plus tôt d'ailleurs, hein, d'une année sur l'autre. Donc c'est vraiment en août, avant même le 15 août désormais. Et puis en Champagne, on est un petit peu particulier parce qu'en effet, on est au nord de la France. Mais pour autant, on élabore des vins qui ont vocation à devenir des vins effervescents. Donc on a besoin d'une certaine fraîcheur. On fait aussi des vins blancs avec 2/3 de raisins noirs, le pinot noir et le pinot meunier. Donc on a tendance à récolter finalement un peu plus tôt que nos voisins bourguignons, par exemple. Donc on vendange nous aussi dans les premiers, avant la Bourgogne en général, avant le Bordelais également. Et puis bien sûr, les vins rouges, on va chercher une autre maturité, plus de degrés également, donc on va récolter un petit peu plus tard.
Vazoumana se pose une grande question pour vendanger. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça dans la journée, le matin très tôt, la nuit? Quel est le meilleur moment pour vendanger sur 24 heures possible?
Ben, c'est une très très bonne question et ça va peut-être évoluer à l'avenir. Donc aujourd'hui, on récolte en journée. On essaie de commencer tôt, au lever du soleil, parce que c'est quand même plus dur de cueillir de nuit, à moins d'avoir une frontale ou des lumières pour éclairer le vignoble.
Hélène Pio de vendange et de nuit, il va falloir qu'on la retrouve. Hein, l'intérêt d'une grosse frontale. Hein,
ça dépend si les cèpes sont taillés haut ou pas, en fait. Ça dépend comment ils ont été taillés.
Mais pour autant, à l'international, moi j'ai déjà vu des vendanges qui se faisaient la nuit pour éviter des chaleurs en journée qui sont.
Dans
qui
quel
sont
pays, Emilia? Dans quel pays?
Par exemple, au Chili, par exemple, où la récolte se faisait vraiment au tout début de la matinée. Ça commençait peut-être à 4 heures du matin pour se terminer à 8-9 heures pour profiter justement des températures fraîches de la nuit, rentrer des raisins frais au pressoir et pouvoir garder au maximum la qualité des raisins. Donc, on n'en est pas là en Champagne. Mais pour autant, on vendange de plus en plus tôt pour éviter quand même ce phénomène d'après-midi chaude. Hein. Cette année, en vendange fin août, du côté de Montgueux, par exemple, il y a eu des 35 degrés dans l'après-midi, donc les raisins rentrent un petit peu chaud sur le pressoir, et donc vaut mieux privilégier, en effet, les températures fraîches. Donc aujourd'hui le matin, et à l'avenir, peut-être, pourquoi pas, comme dans d'autres pays le font, de nuit. On n'en est pas encore là.
Justement, ça préfigure de la question de Charles. Charles se demande quels seront les effets du réchauffement climatique sur les prochaines vendanges. Vous nous dites fin août 35 degrés. Je pense qu'il y a pas mal d'anciens champenois qui doivent se retourner dans leur tombe, hein, parce que qu'est-ce qui va se passer sur les années à venir?
C'est déjà le présent, en fait. On est déjà impacté par ce réchauffement climatique. On vendange aujourd'hui en Champagne, hein, je vais rester sur l'exemple de la Champagne, 3 semaines quasiment plus tôt que ce qu'on faisait il y a 20, 30 ans. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens vendanger fin septembre, début octobre. On fêtait notamment l'anniversaire de mon père, qui est le 1er octobre. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on commence quasiment tous les ans en août. Donc, on vendange de plus en plus tôt. Les raisins sont de plus en plus mûrs, avec une acidité de plus en plus faible. C'est un fait. On doit s'y accommoder. On doit trouver des parades pour garder l'équilibre dans nos vins. Donc, être très précis sur les dates de vendange, jouer aussi par exemple sur des techniques de fermentation, la fermentation malolactique qui peut être bloquée. Donc on s'adapte d'ores et déjà au réchauffement climatique qui est déjà en marche et qui impacte déjà la vendange en Champagne.
Hélène Pio, ça veut dire que dans quelques années, on aura des grands vins en Bretagne, dans les Hauts-de-France, en Normandie.
Il commence à y en avoir dans toutes ces régions-là. De là à dire que ça sera des océans viticoles d'ici 4 ou 5 ans, peut-être pas. Mais oui, il va y en avoir de plus en plus parce qu'effectivement, ce qui paraissait totalement impensable il y a 25 ans, aujourd'hui, est totalement de l'ordre du possible.
Dernière question qui émane de Guillaume, mon cher Emilien. Les techniques de vendange diffèrent-elles en fonction du cépage qui est récolté, en fait, ou du produit recherché in fine, c'est-à-dire du vin avec ou sans bulle?
Alors oui, tout à fait. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la vendange en Champagne est manuelle et ce pour différentes raisons. C'est un vin d'exception, mais aussi on fait du vin blanc à partir de pinot noir et de pinot meunier qui sont des raisins noirs. Donc, on a besoin de préserver cette grappe et de ne pas tacher les jus puisque la pellicule est colorée et rouge et pourrait être tâcher et colorer les jus. Donc, on a besoin de récolter à la main en Champagne. Et en fait, chaque appellation a ses propres réglementations. Et dans certaines appellations, il est tout à fait possible de récolter avec une machine à vendanger. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus des grappes qui sont découpées à la main. C'est une machine qui vient faire vibrer, avec beaucoup de précautions toutefois, mais faire vibrer la vigne pour faire tomber les baies dans cette machine à vendanger et ramener ensuite des baies au pressoir ou en cuverie.
Hélène, un commentaire peut-être sur ces techniques pour obtenir la quintessence de chaque grain de raisin?
C'est pas vraiment ce que Emilia est en train de nous dire, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, quoi. C'est il faut beaucoup 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 d'expérience et puis un petit peu de chance aussi, voilà, et surtout si on a bien travaillé en amont, si on a établi des super relations avec les gens qui nous fournissent les raisins, je parle pour la Champagne là, logiquement à la ça doit être merveilleux, mais ça, on fait confiance à Emilien pour ça.
Merci beaucoup Emilien, merci Hélène également et David. Je rappelle que Emilien, que vous êtes le chef de cave de cette maison Piper Heitzig, et on a le grand plaisir de vous retrouver chaque dernier dimanche du mois à bord de InVino Radio.